Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'achat de matériel, ordinateur, téléphone et le logiciel libre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme MuseCore, un logiciel libre d'édition de partitions musicales. Et aussi un sujet bien dans l'ordre du jour, le télétravail. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse également désormais en DAB, plus 24 heures sur 24. C'est la radio numérique terrestre avec notamment un meilleur son. Et donc pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement. Il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec des références et également sur le site de la radio causecommune.fm. Nous sommes le mardi 17 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors je précise tout de suite que l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles. Nous diffusons donc en direct depuis Saint-Denis, Paris, Breuillet en Charente-Maritime, Aubagne près de Marseille et Clamart. D'un point de vue technique, nous utilisons le module de discussion de Nextcloud, un logiciel libre d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda et de bien d'autres fonctionnalités dont nous avons déjà parlé dans l'émission. C'était l'émission 54 du 18 février 2020. Nous espérons que tout se passera bien, mais je vous prie de nous excuser par avance si des problèmes techniques se produisent. Si vous voulez réagir, poser une question pendant ce direct, participer à la discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la radio, causecommune.fm. Vous cliquez sur chat et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme détaillé de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par vous parler de MuseScore, un logiciel libre d'édition de partitions musicales avec Sylvain Kutzmann, enseignant, compositeur, musicien et bénévole à l'April. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'achat de matériel, ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone mobile, avec Aurélien Coudert, bénévole à l'April, et Michel Memeto, directeur d'Echimia.fr. En fin d'émission, nous évoquerons le télétravail avec Vincent Calab dans le cadre de sa chronique « Jouons collectif ». À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William Asgavari, que je salue. Bonjour William. Et donc nous allons passer tout de suite au premier sujet. Donc nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Kutzmann, donc, qui est enseignant, compositeur, musicien, bénévole à l'April, qui va nous parler de MuseScore, un logiciel d'édition de partitions musicales. Et je précise tout de suite que Sylvain s'occupe de la post-production des podcasts de Libre à vous, donc c'est un grand plaisir que tu sois avec nous. Bonjour Sylvain, tu nous entends bien ?
Oui, bonjour, bonjour Fred, bonjour à tous, je vous entends bien, merci.
Alors déjà, bon, je te fais une courte petite présentation, mais est-ce que tu veux compléter ta présentation personnelle ?
Non, elle est déjà assez complète. Je suis principalement professeur de musique dans un petit conservatoire à Saint-Palais-sur-Mer. J'enseigne la formation musicale, ce qu'on appelait le solfège, et la musique électroacoustique. Et voilà, je compose de la musique aussi pour des orchestres, des musiciens, ou pour de l'image, des documentaires. Et j'anime une toute petite maison d'édition qui s'appelle L'Octanphare, où j'utilise notamment MuseScore et d'autres logiciels libres. Voilà.
D'accord, super. Alors, première question, j'ai envie de te poser. Donc, MuseScore, c'est la notation musicale pour tout le monde, mais pourquoi écrire des partitions ?
Alors, on écrit des partitions parce que pour faire de la musique, quand on veut acheter des partitions, souvent le prix d'une partition peut être élevé. Souvent, on achète un bouquin entier alors qu'on a besoin que d'une partition parmi tout le recueil qui est vendu. C'est un petit peu de la vente forcée de recueils de partitions. Les derniers titres récents qu'on voudrait avoir, les derniers tubes à la mode, on les trouve pas forcément en partition. Il y a un grand délai avant d'avoir les titres qui soient disponibles en partition. On a une version papier, mais on voudrait avoir une version PDF pour l'échanger sur Internet. Et les partitions existent souvent pour les instruments les plus populaires, mais pour son instrument à soi, parfois la partition n'est pas disponible, donc on a besoin de la réécrire avec un logiciel. Voilà les principales raisons pour lesquelles on écrit la musique, on réécrit ou on écrit la musique avec un logiciel.
D'accord, super. Alors d'où vient MuseScore, sa petite histoire ?
Oui, alors pour faire bref, MuseScore, ça remonte au début des années 2000, en 2002. C'est Werner Schwer, qui est un informaticien allemand, mais qui a une passion, qui fait du piano. Et donc, il décide de créer un petit programme pour noter les morceaux de piano qu'il compose. Et ce programme, il l'appelle Muse, Muse, hein, Muse. Et ce petit programme va ensuite se transformer en MuseScore, un éditeur de partition plus élaboré. Il y a deux autres personnes qui vont le rejoindre, hein, jusqu'en 2008, c'est Nicolas Froment, un Français, et Thomas Bonté, un Belge. Et ces trois-là vont créer le site internet musescore.org en 2008 et développer toujours ce logiciel MuseScore et essayer de le porter vers le grand public. En 2011, ils créent leur société, MuseScore BVBA, où les trois travaillent sur le logiciel. Et MuseScore continue de se développer avec une grande communauté qui se développe autour, hein, en tant que développeur ou traducteur ou contributeur de toutes sortes. Hein, et ça devient tellement difficile à gérer à trois personnes que cette petite société créée en 2011 est revendue à Ultimate Guitar, une grosse société basée en Russie, en 2018, voilà, pour continuer à faire avancer le logiciel. Donc voilà en gros l'histoire de MuseScore, qui est à peu près le logiciel d'édition musicale le plus utilisé aujourd'hui dans le monde, hein, puisqu'on a des milliers de téléchargements par jour. C'est traduit en 66 langues. Il y a plus de 1000 traducteurs, presque à peu près 200 développeurs, une bonne quarantaine qui sont très actifs. Donc ça en fait un logiciel qui est vraiment très très actif et qui évolue rapidement.
D'accord, donc c'est un peu comme VLC, qui est dans son domaine le logiciel le plus téléchargé, et c'est un logiciel libre. Finalement, dans la notation musicale, le logiciel le plus utilisé est aussi un logiciel libre, et c'est MuseScore, donc.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord.
Bon, ouais.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'écriture de notation musicale, des partitions, etc., quelles sont les principales fonctionnalités de MuseScore?
Alors c'est très simple, MuseScore permet de tout faire, mais pour être précis, quand on voit une partition de musique, on voit des portées avec des notes, des rythmes, etc., eh bien MuseScore permet d'écrire ça. C'est-à-dire qu'on a une partition vierge sous les yeux, hein, des portées comme ça, sans rien, et on vient poser nos notes et nos rythmes en utilisant différentes notations pour le piano, pour la guitare, la clarinette. Donc on a une partition classique, entre guillemets, qui s'écrit avec le logiciel. On peut aussi faire des tablatures, donc pour tous ceux qui jouent des instruments à cordes, guitare notamment, hein, la tablature, c'est la façon d'écrire la musique en ayant sur les portées, non pas des notes de musique classique, entre guillemets, mais les chiffres qui correspondent aux cases que l'on pose sur les doigts. Donc on peut écrire aussi en tablature, et les deux sont liés. D'ailleurs, je peux écrire de manière classique et ça me le transforme en tablature, ou l'inverse, je peux écrire en tablature et ça me le transforme de manière classique automatiquement. Donc on peut écrire des partitions pour un seul instrument, pour un orchestre entier. C'est tout à fait complet, opérationnel. Tout ce qu'on voit comme partition sur internet ou dans le commerce, on peut le faire avec MuseScore, en fait.
D'accord. Donc c'est de la composition, de la création. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu as enseigné, donc je suppose que tu l'écoutes, tu l'utilises beaucoup dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage.
C'est ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'ai le même outil, enfin que mes élèves aient le même outil que moi, donc ils puissent installer à la maison le même logiciel. Je me rappelle quand j'étais en fac, on avait été formé sur un logiciel qui s'appelle Final, qui coûtait très cher, et on adorait aller faire nos cours, mais quand on rentrait à la maison, on n'avait pas le logiciel. Il y avait une grosse frustration. Donc, le fait d'avoir un logiciel libre, ça nous permet de faire tomber cette barrière. Et moi, mon outil, eh bien, mon élève chez lui a le même outil. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc, c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur MuseScore à temps plein, entre guillemets, dans mon utilisation, parce que ça fait tomber ces barrières-là. Et pour la pédagogie, c'est vraiment super. D'autant plus dans ces temps de confinement où chacun va travailler un peu chez soi. MuseScore, là, en ce moment, et je sais, est très utilisé par beaucoup de professeurs et d'élèves.
D'accord. Et donc, comment, si on veut l'installer, c'est disponible sur toutes les plateformes. Il y a également une application mobile. Comment on fait?
Oui, si on veut l'installer, on va sur le site officiel qui est musescore.org. Et faut savoir que c'est multiplateforme, hein, donc ça marche sur sur les Linux, BSD, Windows et macOS aussi. Pour Linux, on a une app image qui est disponible, mais aussi des paquets hein, pour les principales distributions, hein, Ubuntu, Gentoo, Mint, Debian, Fedora, etc.
On va préciser qu'une app image, c'est un sort de fichier binaire qui s'exécute tout seul, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Un prêt à l'emploi, on va dire.
Un prêt à l'emploi, voilà, exactement.
Qu'on peut installer. Ouais. Donc, il faut, pour utiliser MuseScore, on utilise l'ordinateur. Hein, et, on ne peut pas encore écrire, puis je pense que ce ne sera pas un jour fait. On n'écrit pas à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Il y a des applications qui existent qui s'appellent MuseScore sur tablette ou smartphone, mais c'est juste pour lire les partitions ou les entendre ou les écouter, les faire défiler. Mais pour fabriquer la partition, on reste sur l'ordinateur.
D'accord, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, donc les distributions libres GNU Linux, les autres systèmes et applications mobiles. Si on veut se former, est-ce qu'en dehors de l'utilisation dans les conservatoires, parce que par exemple mon fils qui fait de la musique l'utilise au conservatoire, est-ce qu'il y a des formations un peu plus générales ou en dehors des conservatoires ou des formations en ligne ?
Ouais, ça reste assez marginal. On peut se former tout seul déjà en autonomie parce qu'il y a vraiment une grande communauté qui est très active et il y a beaucoup de ressources, notamment toujours sur le site officiel où on a un forum qui est très réactif, des tutoriels, le manuel en ligne. On trouve aussi d'autres ressources hein, sur des chaînes, sur des plateformes de vidéos, etc. Si on veut aller plus loin, on a aussi des cours en ligne, on va dire officiels. Qui sont faits par AF Media. Hein. AF Media, c'est Amandine Fressier qui est en Bretagne et qui a mis en ligne les cours. On a une plateforme de cours en ligne, en fait, ou de A à Z pour un abonnement, je crois, qui est 25 euros à vie. On peut accéder à tous les cours avec de la vidéo, de l'accompagnement, etc. Maintenant, sur les formations présentielles, c'est assez rare. On peut en faire soit dans des rassemblements comme le Capitole du Libre, Passage en scène, où on a parfois des conférences ou des ateliers, mais ça, c'est assez ponctuel. Sinon, on a des associations, des écoles de musique qui proposent des fois de former leurs adhérents. Et donc là, on peut être sollicité D'accord. pour venir faire une formation. Parfois, c'est ouvert au grand public. Hein. Sinon, les professeurs de musique, dans leur formation continue, maintenant, ont accès à des stages de formation à MuseScore. Mais finalement, les formations, j'allais dire, en présentiel sont assez rares encore sur le territoire.
Ok, d'accord. En introduction, j'ai dit que tu t'occupais de la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc, déjà, merci pour ce travail intense et important.
Oui, c'est avec plaisir.
On a lancé un appel parce que pour un peu aussi te décharger et puis que d'autres personnes éventuellement puissent t'aider parce que tu fais ça quand même toutes les semaines. Est-ce qu'en quelques mots tu peux expliquer ce que représente le travail de post-production d'un podcast ?
Oui, c'est finalement une autre manière d'écouter l'émission. On récupère l'enregistrement de l'émission, on récupère l'habillage de l'émission et des musiques qui sont diffusées et ensuite on va commencer par faire un nettoyage, donc on réécoute l'émission en faisant un nettoyage de tous les petits ratés de prononciation, les petits bruits de bouche, les choses comme ça. On essaye de nettoyer pour que ce soit le plus agréable possible à écouter ensuite. On replace les musiques et les jingles pour vérifier que tout est bien au même niveau. Et tout ça sur une émission d'une heure et demie, il faut compter deux heures et demie d'écoute pour faire ça. Voilà, donc maintenant j'écoute plus l'émission en direct, je l'écoute quand je fais le montage. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de temps. Mais c'est voilà en gros ce que ça représente. Hein. On se met dans un logiciel, un multipiste quelconque, Ardour ou autre, hein, et on édite de l'audio comme ça.
D'accord. Bon, pour l'émission du jour, ça va être un peu particulier pour toi parce que tu vas t'auto post-produire et en plus avec un démarrage délicat.
C'est ça. Ouais.
Voilà. En tout cas, donc, si des personnes ont des compétences et du temps pour aider Sylvain à la post-production des podcasts de Libre à vous, n'hésitez pas à nous contacter. Écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur MuseScore ou sur autre chose, Sylvain ?
Non, rien de spécial, juste il y a les références qui vont être ajoutées sur la page, donc les personnes pourront se référer aux différents liens qui seront insérés et voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer ce logiciel et puis à aller poser des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'une grande aide hein, sur la communauté, sur les forums, etc.
Ouais, les deux ressources en ligne principales, c'est musescore.org pour les ressources et les partitions en ligne, il y a musescore.com.
Oui, c'est vrai. Si on recherche une partition, même si on n'utilise pas MuseScore, le logiciel, MuseScore est une plateforme de partage de partitions, effectivement, où on a actuellement plus de 700 000 partitions. Alors, toutes ne sont pas forcément des grandes partitions ou des standards ou les derniers tubes à la mode, mais on a quand même un grand choix de partitions qu'on peut télécharger librement et échanger librement. Donc, faut pas hésiter à les piocher là-dedans et à aller voir ce qui s'y passe.
Ok, bah écoute, merci Sylvain. Donc, je te remercie et puis bon courage pour le traitement du podcast du jour. Donc, merci, c'était Sylvain Kotzmann, enseignant, compositeur, musicien, bénévole à l'April, qui nous a parlé donc de MuseScore, la notation musicale pour tout le monde. Alors, nous allons faire une pause musicale, en tout cas, j'espère. Donc, nous allons écouter Les Rosalie par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1.
Alors, nous venons d'écouter Les Rosalie par Emma. Excusez-nous, les conditions sont un petit peu délicates, donc j'entendais pas la musique. Nous avons écouté donc Les Rosalie par Emma, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et on va passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'achat de matériel et la question du logiciel libre avec Aurélien Coudert, bénévole à l'April. Donc Aurélien, est-ce que tu nous entends? Bonjour.
Bonjour, je vous entends, oui.
Et Michel Memeto, directeur d'Ekimia.fr. Michel, est-ce que tu nous entends également?
Oui, bonjour à tous.
Ok, super. Donc nous allons parler de la question de l'acquisition d'un matériel informatique, ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone mobile, en lien notamment avec le logiciel libre. En effet, la question se pose de comment se procurer du matériel informatique avec lesquels on pourra utiliser des logiciels et des systèmes libres. Pourquoi la réponse n'est pas si évidente que ça? Comment en pratique procéder? Donc voilà ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc déjà une petite présentation personnelle de chacun d'entre vous. On va commencer par Aurélien Coudert.
Donc oui, Aurélien, je suis membre de l'April depuis un certain nombre d'années, sans doute une quinzaine maintenant. Et je suis également contributeur de Debian, qui est un projet pour créer un système d'exploitation entièrement basé sur des logiciels libres. Et il se trouve que le sujet d'achat de matériel est quelque chose qui m'intéresse depuis un certain temps. Donc c'est pour ça que Frédéric m'avait proposé de participer à cette émission.
D'accord. Si Aurélien, tu peux augmenter légèrement ton micro, ça serait utile. Michel Memeto.
Oui.
Oui, donc bonjour à tous. Je suis Michel Mento, je suis directeur d'une petite société qui s'appelle Ekimia, qu'on a créée en 2014, mais on avait évidemment démarré quelques années plus tôt. On a démarré directement, en fait, parce que le besoin de trouver des ordinateurs préinstallés tout simplement avec Linux était vraiment présent en 2010, par exemple. Linux devenait vraiment populaire, mais on trouvait très peu de machines, voire pas du tout, dans les réseaux de distribution classiques et même sur Internet. Donc on a créé cette société, on assemble en fait les ordinateurs sur mesure. Vous choisissez sur le site web les composants, on préinstalle principalement Ubuntu Linux, la dernière version, et on fait de l'assistance évidemment pour les utilisateurs. Ça permet de démarrer sur Linux assez facilement avec une machine préinstallée.
D'accord. Écoutez, très bien. On va juste préciser pour les personnes que nous, à l'April, on préfère utiliser le terme GNU Linux qui renforce l'importance des libertés du projet GNU et qui est beaucoup plus précis. Pour les parties distribution de GNU Linux, même si on va en reparler dans l'émission, on a déjà abordé ce sujet. Alors, je n'ai plus l'émission en tête, mais quelqu'un sur le salon web va me la rappeler, dans laquelle on avait parlé de Mageia, Ubuntu et Debian. Alors, première question, mais même si Michel a commencé à en parler, pourquoi on ne trouve pas du matériel préinstallé avec du logiciel libre, logiciel et système, notamment dans les magasins de grande distribution ou autre? Pourquoi quand on va acheter un ordinateur, on n'a pas un système qui est la possibilité d'avoir une machine d'avoir préinstallé avec un système libre? Qui veut commencer, Michel ou
Je peux dire un mot là-dessus.
Aurélien,
un sujet qui est qui a une problématique depuis longtemps quand on souhaite acheter du matériel directement avec du logiciel libre, c'est ce qu'on appelle la problématique de vente forcée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu des accords entre notamment Microsoft en tant que grand éditeur de logiciels non libres et un certain nombre de vendeurs d'ordinateurs pour les obliger à vendre du Windows avec leurs ordinateurs. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais il y a eu pendant très longtemps des raisons contractuelles qui faisaient que pour un fabricant d'ordinateurs proposer même quelques ordinateurs d'une gamme avec du logiciel libre préinstallé, ça le faisait tomber dans une case où il avait des tarifs extrêmement défavorables sur les ordinateurs fournis avec Windows de Microsoft. Donc c'est vrai que ça a été un peu un repoussoir pendant des années dû à ce type de relations contractuelles qui sont, pour tout dire, illégales.
D'accord. Michel Beneteau ?
Alors, moi je confirme plutôt effectivement ce problème-là qu'il y a eu au niveau des accords de licence entre les fabricants et Microsoft. Ce que je pense, évidemment, j'ai pas vu ces accords-là, mais ce que je pense avoir compris, c'est que Microsoft laissait les très gros fabricants comme Asus faire des essais du côté de Linux, avoir quelques références, mais il fallait quand même qu'une majorité de la gamme soit sous Windows pour avoir évidemment des tarifs assez bas par machine. Et je voulais juste souligner, donc, à mon avis, une étape importante que vous vous souvenez sûrement, même c'était il y a 13 ans, en 2007, quand les premiers netbooks sont sortis, notamment le IIPC chez Asus, qui était préinstallé avec une distribution Linux très ancienne. Je pense que c'est là où ça a mis une certaine pression à Microsoft et les autres constructeurs ont commencé à voir que Linux pouvait percer, même si par la suite... Ça n'a pas perduré du tout. Ça n'a pas vraiment marché.
Alors pour rebondir là-dessus, les accords dont on a entendu parler qui ont fuité, c'était effectivement des règles du type Microsoft faisait des tarifs avantageux pour des gros volumes tels que peuvent avoir les fabricants de grand public d'ordinateurs. En revanche, s'ils avaient ne serait-ce qu'un ordinateur de la gamme qui était vendu sans Windows, ils repassaient au tarif officiel qui était très désavantageux. Donc effectivement, dans le cadre de ces petits netbooks qui étaient uniquement vendus avec Linux dans un premier temps, ça devenait faisable pour les éditeurs de ne pas sortir de leurs conditions contractuelles avantageuses.
D'accord. Et on va rappeler qu'il y a une longue bataille juridique en France et aussi en Europe pour savoir si cette vente forcée était légale ou pas. Et nous sommes faisons partie des gens comme vous qui pensons que pas du tout, et c'est remonté jusqu'à la commission, non, la Cour de justice de l'Union européenne, qui malheureusement, donc il y a quelques années, ça devait être en 2016, a tranché qu'en fait ce n'était pas une pratique déloyale en toutes circonstances, cette pratique, et donc que finalement, il était normal pour le consommateur de ne pas avoir le choix de son système quand on achète un ordinateur. Mais voilà, en tout cas, l'explication permet aux personnes qui nous écoutent de mieux comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, il est difficile de trouver, à part quelque dans un magasin spécialisé, du matériel préinstallé avec des systèmes libres.
Est-ce que sur cette... On peut quand même compléter, parce que donc il y a la partie effectivement raison contractuelle et problématique de licence, mais il y a aussi une partie qui est purement et simplement liée aux notions d'offre et de demande. C'est quelque chose de coûteux de mettre en place ça peut être coûteux de mettre en place et de supporter un système d'exploitation quel qu'il soit, que ce soit libre ou pas, pour un certain matériel. Et donc c'est vrai que aussi du point de vue des fabricants, ils sont un peu pilotés par la loi de l'offre et de la demande. À un moment donné, tout le monde est habitué à utiliser un certain système qui est plutôt pas libre, et c'est vrai que ça va avoir tendance à les orienter aussi de ce côté-là et à pas forcément prendre le risque d'essayer autre chose. Et donc c'est là que c'est effectivement important pour un peu tout un chacun d'aussi pousser le marché dans le bon sens, en essayant, quand on est intéressé, d'acheter un ordinateur avec du libre préinstallé, parce que ça envoie aussi un message aux fabricants, en leur disant oui, c'est quelque chose que les gens souhaitent pouvoir acheter, et donc ça leur donne l'occasion de aussi travailler dans ce domaine-là.
D'accord.
Oui, je rejoins complètement Aurélien là-dessus. Il y a un vrai risque économique pour un gros fabricant, Asus ou Dell, à essayer de commercialiser, on parle en circuit de grande distribution, des machines préinstallées avec un autre système que le système dominant, tout simplement. Néanmoins, on voit que Dell, sur la partie offre professionnelle, pousse énormément Linux avec un certain succès sur des machines très puissantes ou même d'entrée de gamme. Donc il y a un marché, entre guillemets, il y a une demande, même si elle est faible, hein, c'est quelques pourcents, je pense, mais cette demande existe. Après, voilà, les règles de distribution en grande surface sont, à mon avis, beaucoup trop contraignantes pour que les constructeurs prennent ce risque. J'ajouterais quand même que, à mon avis, le commun des consommateurs va de moins en moins vers les grandes surfaces pour acheter des produits high-tech et va plutôt se tourner vers des magasins spécialisés.
D'accord. Alors, on va parler tout à l'heure effectivement des magasins spécialisés. Le second point que je souhaitais aborder, c'est que vous essayez un petit peu d'expliquer, parce qu'en fait, dans le cadre de toutes les émissions, on aborde souvent des logiciels libres, notamment grand public, hein, Firefox, VLC, qui sont très simples à installer et qui, pour la plupart, sont multiplateformes, et donc qui ne posent pas de difficultés. Mais quand on parle d'installer un système d'exploitation libre, tout d'un coup, il y a des difficultés qui surviennent. Est-ce qu'on pourrait évoquer ces quelques difficultés et les expliquer, pour expliquer donc, voilà, aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, quelles sont les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées et comment éventuellement les résoudre. Aurélien Couder, est-ce que tu veux commencer?
Alors oui, moi ce que j'aime bien faire quand on parle de ce sujet-là, c'est un peu comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand on parle de difficultés à installer un système libre, il faut voir que quand on achète un ordinateur avec un système non libre préinstallé, c'est pas du tout quelque chose que les gens ont fait eux-mêmes. C'est des ingénieurs qui ont été payés à plein temps pendant des mois ou des années à préparer le système tel qu'il est fourni par le vendeur d'ordinateurs pour que ça puisse fonctionner. Donc il faut voir que l'opération même de prendre un système d'exploitation et le mettre sur une machine, ça peut être quelque chose de relativement complexe. Et en l'occurrence, il se trouve que les systèmes libres qui ont besoin de rendre cette possibilité-là abordable du commun des mortels ont justement beaucoup travaillé pour rendre facile l'installation du système, ce qui n'est pas du tout autant le cas pour Windows. C'est-à-dire que si on partait d'une machine vierge sans système du tout, en général, c'est beaucoup plus facile d'installer un système libre qu'un système qui est non libre. Donc c'est vrai que ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un système installé, évidemment, il y a eu toute une entreprise, le fabricant d'ordinateurs et toute une série d'ingénieurs qui ont travaillé à ce que ça soit fourni de cette manière-là.
D'accord. Michel, Métaux ?
Oui, complètement. Et donc effectivement, il y a un coût derrière, on est d'accord, pour la certification de la machine. Et il y a un coût qui est assez masqué, en fait, pour le support, même sur Windows, le support du constructeur, même si on ne le voit pas forcément, mais quand un utilisateur a un problème logiciel sur Windows, ben, il peut des fois appeler son constructeur à Asus, Lenovo, etc. Et donc tout cela, ça a un coût en termes de support client. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la charge de support générée par un système libre comme GNU Linux est sûrement plus faible que celle générée par des systèmes comme Windows pour plein de raisons de complexité, etc. Donc, je pense, et j'espère que beaucoup pensent la même chose, que GNU Linux peut percer toujours dans les ordinateurs grand public.
D'accord. Mais par rapport donc au problème, enfin, par rapport aux problématiques, souvent quand on parle de la question de l'installation de systèmes libres, on parle, ouais. Est-ce que tu as vérifié la compatibilité avec ta carte réseau, notamment la carte Wi-Fi, on parle de problématiques ou de questions en tout cas de cartes vidéo, où en est la situation aujourd'hui et quelles sont les problématiques et les solutions?
Alors je vais rebondir pour avoir suivi un peu l'évolution en fait de la compatibilité globale. On a vraiment énormément progressé depuis 20 ans et on peut dire qu'aujourd'hui la situation est presque idéale, c'est-à-dire que vous achetez un ordinateur très standard, 100% du matériel fonctionnera sur Linux, notamment, il faut le dire, grâce aux fabricants Intel qui participent au projet Linux, qui poussent des drivers avant même de mettre des produits sur le marché. Et étant donné qu'Intel a une très grosse part de marché dans les ordinateurs portables, c'est vraiment un plus. Donc, le problème n'est pas tant sur l'aspect compatibilité des périphériques, etc., à part quelques exceptions. Je pense que le problème est surtout sur la démarche pour un utilisateur pour réussir à finaliser son installation sur son ordinateur portable personnel. Aujourd'hui, la seule méthode qui est proposée par les distributions Linux, c'est de fabriquer une clé USB, entre guillemets, enfin créer une clé USB avec un petit logiciel, démarrer sur cette clé USB, finir une installation, etc. Jusqu'à récemment, on n'avait pas de moyen pour installer GNU Linux simplement en cliquant sur un logiciel, sur Windows, etc. C'était pas vraiment techniquement possible. Là, heureusement, depuis cette année, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Donc, techniquement, on pourrait créer un logiciel Windows qui, en quelques clics, sans poser vraiment de questions, réussit à installer le GNU Linux sans avoir à utiliser de clé USB, de CD, des choses comme ça. Et je pense qu'une fois qu'on aura terminé ce genre de logiciel, on pourra vraiment voir décoller le nombre d'utilisateurs de GNU Linux.
En tout cas, pour compléter, je pense que c'est une opération, si on n'est pas habitué à le faire, qui est intéressante de faire avec des gens qui connaissent et qui l'ont déjà fait. Donc il y a des événements, alors moi étant parisien, je connais plutôt les premiers samedis du libre organisés par le groupe d'utilisateurs de Linux parisien, qui permet de venir avec sa machine si on veut obtenir de l'aide pour se faire installer un système d'exploitation libre. Et une partie du sujet, c'est aussi de se faire accompagner pour faire les premiers pas et de pas se retrouver forcément tout seul face à un nouveau système qu'on ne connaît pas et qui est toujours un petit peu différent. Donc c'est vrai que si on a eu l'occasion soit de l'utiliser avant, soit de se faire un petit peu guider, ça aide aussi à pouvoir s'approprier ce nouveau système.
D'accord. Et alors, là, on parle de système GNU Linux ou autre. D'ailleurs, les BSD, les systèmes BSD sont concernés aussi. Il y a quand même la question de savoir si on veut un système entièrement libre, c'est-à-dire qui va jusqu'au pilote de périphérique et notamment ce qu'on appelle les firmware, c'est-à-dire c'est les logiciels qui sont embarqués dans le matériel. Se pose par exemple la question de la carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi est un exemple quand même qui est intéressant dans le sens où si on veut vraiment, quand par exemple on installe une distribution comme Debian, à un moment il y a une question qui est posée. Est-ce qu'on veut installer le firmware qui permet d'avoir accès au Wi-Fi ou pas? Et si on répond oui, on a un firmware qui est installé, mais qui est un firmware privateur. Donc, comment vous gérez ça, par exemple, dans les installations dont tu viens de parler, Aurélien, et puis côté boutique et Kimia, comment vous gérez cet aspect-là?
Alors, par rapport à la question des micro-logiciels ou des firmwares, effectivement, c'est vrai que plus on va descendre à proche du matériel, plus ça peut être compliqué de garder intégralement du logiciel libre. C'est facile sur un système qui est pas libre d'installer VLC ou Firefox, comme vous avez mentionné, qui est juste un logiciel libre. C'est un petit peu plus difficile d'installer un système d'exploitation GNU Linux complet sur une machine, et c'est encore plus difficile de s'assurer que l'ensemble de tous les composants qui vont être capables de faire fonctionner chacun des éléments de votre ordinateur vont tous être libres, les fameux micro-logiciels ou firmware dont tu parles. Donc ça, c'est vrai que si on veut avoir la garantie d'avoir l'intégralité des micro-logiciels qui sont également libres, là il faut un petit peu faire attention à ce qu'on choisit comme matériel. En général, sur un ordinateur moyen qu'on va acheter dans le commerce, ça va tout fonctionner normalement en installant une distribution de logiciels libres classique, mais il y aura ces micro-programmes qui eux seront de temps en temps non libres. Il faut comprendre que les micro-programmes, c'est ce qui permet de faire fonctionner éventuellement chacun des périphériques, qui lui-même a un fonctionnement un petit peu autonome et a un logiciel embarqué à l'intérieur. Et ces micro-programmes-là, ils sont distribués de manière plus ou moins facile dans la plupart des distributions GNU Linux.
D'accord. Et de ton côté, Michel Memeto, au niveau de ta boutique?
Oui, c'est un bon exemple, effectivement, le cas des cartes Wi-Fi, notamment Intel. Donc nous, on utilise depuis 10 ans quasiment uniquement des cartes Wi-Fi Intel qui nécessitent un micro-logiciel, hein, ce qu'on appelle un firmware, pour fonctionner. Par contre, toute la partie driver est libre. Alors, côté compatibilité, ça apporte un vrai plus, il faut le dire, parce que le driver fonctionne directement sans rien installer. Le firmware, lui, arrive effectivement... non pas sous forme logiciel libre, mais sous forme binaire directement par les dépôts des distributions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème de législation dans certains pays avec la communication radio. On a le même problème sur les téléphones Android, où la partie radio, c'est-à-dire le firmware qui gère la radio, est très difficile à libérer, entre guillemets, à publier le code source, pour des problèmes de brouillage, de... voilà. Donc, il y a quand même certains drivers et certains firmwares libres. On pourrait citer, je pense, Atheros, normalement, notamment. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, la majorité des cartes Wi-Fi pour ordinateur portable, par exemple, ce qu'on fait principalement, a cette limitation du firmware obligatoire. Ouais.
D'accord. Alors c'est un exemple qui est bien parce que ça nous permet de montrer, de parler un peu de la question des compromis, parce qu'une solution pour ce cas-là, et c'est la solution par exemple que nous on a appris et que j'ai par exemple chez moi, c'est d'avoir une carte externe USB Wi-Fi, mais qui effectivement c'est une contrainte, c'est-à-dire c'est une carte externe, c'est-à-dire que la carte interne n'est pas gérée par le système, donc on ne peut pas avoir le Wi-Fi via la carte interne, mais la carte externe le permet. Simplement, voilà, il faut se balader avec une carte externe qui des fois peut se casser, il faut l'avoir dans son sac, etc. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là qui existe, et c'est
donc
bien d'en parler.
Quand tu parles de compromis, c'est pour avoir vraiment du logiciel libre, jusque y compris dans le micro-programme, c'est-à-dire que ton ordinateur pourrait fonctionner avec la carte Wi-Fi d'origine, mais ça t'obligerait à installer un micro-programme que tu n'as pas forcément envie d'installer, c'est ça?
Voilà, quand je parle de compromis, c'est un choix entre effectivement les usages qu'on va faire et la limite qu'on veut se poser par rapport à la partie logiciel libre. On pourrait aussi parler, alors, je ne sais pas, parce qu'on préparait... En préparant l'émission, j'ai une question sur Core Boot, notamment la partie BIOS. Est-ce que l'un de vous pourrait peut-être faire rapidement un point de la situation au niveau du BIOS et des problématiques que ça pose et des solutions éventuellement de BIOS libre?
Alors peut-être juste avant de parler de Core Boot, je voulais compléter sur la partie cartes Wi-Fi. Il faut voir que les cartes Wi-Fi, c'est un des derniers éléments où même dans les ordinateurs portables récents, tout fins et assez peu modifiables, on peut assez facilement la remplacer. Donc moi par exemple, j'avais acheté un ordinateur Dell qui était livré avec Ubuntu et qui avait, je pense, un des modèles de puces dont parlait Michel, c'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement de ces micro-programmes non libres, et j'ai acheté chez un fabricant qui fournit des puces intégralement libres, et j'ai remplacé ce morceau dans mon ordinateur. Donc il faut aussi voir que même sans se trimballer une clé USB qui va être à l'extérieur, il y a des options pour remplacer ça directement à l'intérieur de l'ordinateur.
Complètement.
Michel Memeto?
Oui, complètement. Complètement. Après, on en discutera après parce que ça m'intéresse. C'est vrai que nous, on avait fait cette recherche de pouvoir trouver une carte Wi-Fi avec driver libre. Et surtout, nous, ce qui compte, c'est que le driver soit très stable dans le temps, parce qu'il faut que 5 ou 6 ans, si les gens nous appellent pour nous dire, sur la nouvelle version du noyau, mon Wi-Fi ne marche plus. Voilà, on veut vraiment éviter ça. Et c'est là où Intel nous apporte effectivement un support à très long terme qui est très bon. Mais effectivement, la carte Wi-Fi sera heureusement toujours remplaçable dans les ordinateurs portables, même les ultrabooks de moins d'un kilo. Là-dessus, il n'y aura pas de problème, effectivement.
D'accord. Alors, avant de revenir sur ma question sur Coreboot, que sur le salon web, il y a quelques commentaires. Je vais juste en prendre un, mais il n'y a pas forcément besoin de réagir, mais en tout cas, Muman qui nous dit « Ce n'est pas un compromis, c'est juste la volonté de pouvoir contrôler un matériel qu'on a acheté. » Et il précise qu'en ce qui me concerne, je considère que les spécifications, manuels de réparation, schémas électroniques sont des caractéristiques essentielles des produits au sens du code de la consommation et devraient toujours être publics. Donc voilà, c'est une précision de Muman sur cet aspect-là. Donc, juste avant la pause musicale, parce que le temps file quand même et on va faire une pause musicale, je reviens sur ma question donc sur le BIOS, Coreboot, LibreBoot, qui est un petit peu dans le même domaine. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit point de la situation? Aurélien, Michel?
Ouais, Aurélien, je peux commenter un petit peu. Donc, ce qu'on appelle le BIOS aujourd'hui, c'est plus toujours le BIOS, mais en tout cas c'est le premier programme qui est exécuté par un ordinateur au moment où on l'allume, avant même que le système d'exploitation soit lancé. Et ça, il existe effectivement un remplaçant libre qui permet de faire fonctionner un certain nombre de machines, mais c'est pas du tout comparable aujourd'hui aux distributions de logiciels libres qui vont fonctionner sur la plupart des ordinateurs. Pour avoir une version de Coreboot qui puisse remplacer donc son BIOS ou son UEFI, puisque c'est plutôt ça le nouveau terme, il faut que le projet ait vraiment été adapté à cet ordinateur-là en particulier. Et donc, dans les matériels grand public qu'on achète, qu'on peut acheter en grande surface ou sur la plupart des sites web, c'est extrêmement rare que l'ordinateur soit supporté de base par Coreboot. Coreboot aujourd'hui est plutôt utilisé dans des cas spécifiques où un certain fabricant qui sait qu'il va vendre de toute façon son matériel avec du logiciel libre choisit de développer la partie nécessaire dans Coreboot pour pouvoir avoir aussi ce remplacement de BIOS libre. Donc il y a quelques vendeurs comme System76 qui est un vendeur américain ou Purism qui est un autre vendeur américain qui ont fait ce travail là et même Google sur un certain nombre de ses Chromebooks par exemple a adapter le projet pour qu'il puisse fonctionner avec un matériel particulier, mais là on parle vraiment d'un investissement conséquent à chaque nouvel appareil qu'on souhaite supporter.
D'accord. Michel Lemeto, tu veux compléter sur Coreboot?
Oui, le sujet Coreboot, ben, nous, ça nous intéresse beaucoup évidemment chez Kimia, notamment depuis que System76 a un peu réussi à montrer que avec un investissement a priori conséquent, hein, je pense qu'ils ont deux ou trois ingénieurs sur le sujet en interne, on peut réussir sur des portables très standards à donc remplacer complètement le FI, ce qui permet, il faut le dire, des choses nouvelles. Ça permet déjà de se libérer de certaines failles d'Intel. C'est-à-dire que quand Intel a des failles dans le processeur, ben ça peut permettre Coreboot de un peu contourner ces failles-là et de protéger mieux l'ordinateur, enfin, l'utilisateur. Ça peut permettre d'activer ce qu'on appelle des kill switches, c'est-à-dire de dire ben moi je veux dans le BIOS désactiver la caméra de façon à ce qu'aucun logiciel, peu importe, ne pourra l'utiliser de façon temporaire ou définitive. Donc voilà, ça apporte vraiment un plus, ça permet de libérer vraiment la dernière partie qui n'était pas standard.
D'accord. Eh bien écoutez, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Jack par Jack à la lanterne. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune, cause-commune.fr.
J'ai choisi mon camp
93.1,
celui des nomades qui foutent le camp. Moi, d'un tour de piste m'aura convaincu, seule la vie d'artiste vaut d'être vécue. Rimbaud m'a d'ailleurs montré le sentier, disant j'ai horreur de tous les métiers. Et vite en l'ivresse d'un satisfait, mon cerveau crépite et vit sa paresse. comme un feu follet. Sa pensée divague, rivière étoilée, coulant sur la vague. Lancer sur l'eau, c'est moi qui me barre, je suis un bateau. Celui des nomades, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps, passeurs de leur temps.
Écoutez Jack par Jack à la lanterne, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Avec mes invités Michel Memetto et Aurélien Couder, nous parlons de la question de l'achat de matériel et du logiciel libre et nous allons poursuivre. Si vous voulez participer à cette conversation avec nous, vous pouvez rejoindre le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors Michel, Aurélien, juste avant on parlait de Corbeau, de matériel, et je crois qu'Aurélien, tu voulais parler rapidement de la certification.
Respecter vos libertés, et cette initiative liste un certain nombre de matériels qui sont disponibles en ayant la garantie qu'ils soient intégralement supportés par du logiciel libre. Alors ça donne aussi une idée des compromis qu'il faut faire, la liste est relativement limitée, mais typiquement si on cherche un ordinateur ou on parlait tout à l'heure de cartes Wi-Fi qui soient supportées intégralement par du logiciel libre, on peut se rendre sur le site de la Free Software Foundation, de la Fondation pour le logiciel libre, et on a cette liste de matériel supporté intégralement par des logiciels libres.
D'accord, le site c'est fsf.org pour Free Software Foundation, donc c'est Respect Your Freedom, donc du matériel qui respecte, et du logiciel qui respecte vos libertés.
Voilà, donc le sous-site est ryf.fsf.org, voilà, ça sera dans les liens de l'émission.
Exactement, on les rajoutera dans les liens de l'émission qui seront disponibles sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Alors là, on a un petit peu évoqué en théorie et un peu en pratique aussi, mais maintenant, on va se mettre dans le cas d'une personne qui nous écoute, hein, une auditeur ou une auditrice. Alors, il y a une porte qui grince, je sais pas qui, mais qui se dit, tiens, je vais vouloir me procurer un matériel avec un système d'exploitation libre ou l'installer ou me faire aider. Comment elle fait concrètement, si elle est à Paris, si elle est à Marseille, pour trouver un matériel qui est préinstallé ou pour se faire installer soi-même? Peut-être qu'on va commencer par Michel Memetto, qui justement depuis une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années a une boutique.
Une dizaine d'années, oui.
Ouais, une dizaine d'années, donc une boutique où tu vends du matériel préinstallé. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les clés pour les personnes qui souhaiteraient acheter du matériel chez toi?
Alors aujourd'hui, bon, il y a deux choses. Hein. On a beaucoup de copains enfin qui font ça aussi en Europe. Il y a Y, on est très copains avec Y, System 76 aux États-Unis. Je crois qu'un des gros avantages des petits assembleurs comme nous, pour un consommateur lambda, entre guillemets, déjà, c'est qu'il va pouvoir choisir ses composants. Il ne va pas être limité par le choix d'un constructeur dans une grande surface qui, par exemple, lui a mis une barrette de RAM, enfin une quantité de RAM très faible pour vraiment vendre au prix le plus bas, alors que dans 5 ans, il aura besoin de plus de mémoire parce que les besoins évoluent. Donc, les petits assembleurs comme nous permettent de choisir sa taille de mémoire vive, sa taille de disque, un ou deux disques durs, etc. Et effectivement, de pouvoir avoir un support téléphonique après avoir reçu la machine pour poser des questions très simples comme quel éditeur vidéo me conseillez-vous, est-ce que mon imprimante sera supportée, qu'est-ce que vous me conseillez comme navigateur en termes de performance pour tel genre d'application. Voilà, des réponses à des besoins basiques, très simples, qui permettent vraiment d'avoir un interlocuteur par email ou par téléphone. Je pense que c'est un des gros avantages de passer par des petits artisans comme nous. Ouais.
Et tu vends, donc Ekimia.fr, on va rappeler, tu vends à la fois des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables ?
Oui, on fait aussi quelques ordinateurs de bureau, mais c'est vrai que la partie principale de l'activité, c'est les ordinateurs portables depuis 5 ans. Tout le monde achète vraiment principalement des portables. On fait aussi beaucoup de professionnels avec des ordinateurs de bureau très compacts qui sont souvent moins chers que les propositions de Dell, enfin des grands fabricants.
D'accord. Et en région parisienne, Aurélien Couder, quelles sont les solutions ? Est-ce qu'on a une boutique comme Ekimia en région parisienne ?
Alors moi, j'ai pas connaissance de boutique physique en région parisienne où on trouve facilement du logiciel libre préinstallé. Il y a une certaine gamme chez le site en ligne LDLC qui est fourni sans système d'exploitation, donc ça permet au moins de ne pas payer la dîme Microsoft Windows et ensuite d'installer le système de son choix, mais c'est vrai que du coup on rentre pas directement dans le préinstallé. Et après, moi, un site que je pourrais recommander, c'est le site tout attaché Linux préinstallé avec des accents aigus. Qui est en fait une espèce de collection de vendeurs de matériel avec du logiciel libre installé, enfin donc plutôt d'ordinateurs. Donc on trouve effectivement Ekimia parmi les premiers, et il y en a un certain nombre d'autres qui sont référencés sur ce site-là, linuxpréinstallé.com. Et si pour x ou y raison on veut regarder du côté d'un grand vendeur, le site public de Dell français aujourd'hui, il y a un filtre système d'exploitation, et donc on peut filtrer les modèles qui sont disponibles. Aujourd'hui, c'est avec Ubuntu, donc on peut aller directement sur le site de Dell aussi et choisir un ordinateur avec Ubuntu préinstallé. Comme le disait Michel, du coup on rentre dans le genre de contraintes qu'on a avec un grand assembleur comme Dell, et c'est vrai qu'on a assez peu de choix sur la personnalisation du coup de la machine qu'on va acheter.
D'accord. On peut aussi préciser, alors ils vendent principalement en ligne, mais je crois qu'ils ont un accès boutique dans le 18e arrondissement de Paris, c'est ordinateur-occasion.com, je crois, je vérifie, qui vend du matériel recyclé avec notamment une certaine gamme Lenovo, et il y en a certains qui sont préinstallés avec des systèmes libres, et d'autres qui sont où on peut avoir, je crois, l'ordinateur nu sur lequel on veut ensuite pouvoir installer un système. Alors justement, si quelqu'un se dit, bah tiens, je ne trouve pas quelque chose de préinstallé, ou je vais acheter un ordinateur d'occasion dans une boutique par exemple, est-ce qu'il y a des points de vigilance, même si on en a déjà abordé, à avoir avant d'acheter le matériel, et ensuite si on veut se faire aider, comment on peut faire, quelles sont les bonnes pratiques à avoir? Aurélien Couder.
Alors aujourd'hui, je souscris à ce que disait Michel un peu plus tôt dans l'émission. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'immense majorité des ordinateurs qui seront compatibles avec les distributions de logiciels libres. Donc, je ne sais pas s'il y a un point de vigilance particulier à avoir au niveau de l'ordinateur lui-même. un des points qui reste problématique, c'est l'imprimante, mais qui du coup n'est pas, pas directement lié à l'ordinateur. Aujourd'hui, ça reste compliqué avec un certain nombre de marques d'imprimantes d'avoir quelque chose qui fonctionne sans trop bidouiller. Il y a HP qui, depuis assez longtemps, a des bons pilotes pour ses imprimantes. Donc c'est un peu la solution de facilité si on veut avoir la garantie que ça marche. Pour les autres, c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu plus aléatoire.
D'accord. Michel Bémétaux ?
Oui, non, je pense que ça peut être toujours difficile parce qu'il y a certains défauts de compatibilité qu'on ne voit pas tout de suite. Par exemple, un ordinateur qui se met en veille et puis qui, une fois sur deux, va mal sortir de veille, notamment certaines fois parce que justement le programme EFI a été mal programmé. Donc on en revient un peu à Coreboot qui permet de régler ce genre de problème. Et donc, ça peut être difficile effectivement de s'assurer qu'un ordinateur qui n'est pas certifié pour GNU Linux va bien fonctionner. Maintenant, comme on l'a déjà dit, 95% des ordinateurs maintenant qui sont vendus, tout fonctionne à peu près bien. J'ai envie de dire, les cartes Wi-Fi, on en a parlé tout à l'heure, quasiment tous les constructeurs mettent du Intel maintenant. Intel a une grosse partie du marché, donc ça fonctionne bien. Reste certains problèmes avec les cartes Nvidia, qui, même s'ils proposent un driver de bonne qualité, peuvent certaines fois, le driver se désinstalle mal, enfin se réinstalle mal lors d'une mise à jour, et on peut se retrouver avec un écran noir, ce qui, quand on est débutant, est très problématique.
Oui, tout à fait. Et pour
et
compléter,
donc on peut conseiller à tout un chacun de s'adresser à. Il y a quand même encore des groupes d'utilisateurs, des.
Ah, justement, ça va être ma question.
Parties, ouais, un petit peu partout en France et dans le monde. Donc c'est vrai que si on a un doute, si on veut avoir l'occasion de tester un système libre avant, je pense que c'est bien aussi de se rapprocher, pas seulement de regarder sur Internet, mais d'aller voir autour de chez soi des personnes qui connaissent ces sujets-là et qui peuvent. Ne serait-ce que montrer comment ça fonctionne et éventuellement dédramatiser la partie installation.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les GUL, hein, les groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres. Donc sur le site agendadulibre.org, il y a notamment une liste d'événements, alors qui, avec le confinement, vont être tous annulés les uns des autres, mais il y a aussi une liste d'organisations, donc un petit moteur de recherche qui permet de trouver effectivement des gens près de chez soi pour se faire aider. Donc il y en a à Marseille, à Paris il y a aussi des événements récurrents. Donc par exemple il y a le premier samedi qui se passe à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors le prochain on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais en tout cas sur lequel on peut trouver des gens qui vont vous aider effectivement à installer du logiciel libre et des systèmes libres sur du matériel.
Et puis je voulais ajouter aussi, il y a quand même une fonction hyper intéressante de la plupart des distributions Linux, c'est que, alors certes il faut créer la clé USB, je pense que c'est Michel qui en parlait tout à l'heure avec le système dessus, mais ça permet d'avoir ce qu'on appelle un système live, c'est-à-dire qu'on peut démarrer son ordinateur sur la clé USB pour l'essayer, regarder que ça fonctionne, et ensuite si on l'éteint, ça n'a rien installé de particulier, ça a juste permis de l'essayer depuis la clé USB. Donc ça c'est quelque chose qui donne aussi l'occasion à un utilisateur novice ou qui ne connaît pas encore, de démarrer un système libre, de le manipuler, et puis si ça lui convient pas ou qu'il n'est pas encore prêt, de simplement l'arrêter et retourner sur son système d'origine. Donc ça, c'est quand même une option très flexible et vraiment pratique.
Alors justement, avant de poser une question à Michel, vu que je vois ce qui se passe sur le salon, précisons que la clé USB peut être aussi utile pour tester qu'on va dans un magasin, si le système démarre correctement avec un système libre, si tout fonctionne, on arrive avec sa clé, généralement les vendeurs et les vendeuses acceptent que ça démarre sur une clé USB externe pour qu'on puisse tester. Je vois sur le salon que Michel parle de la cohabitation avec Windows parfois, peut-être un petit rappel sur la possibilité d'avoir un système préinstallé ensemble et d'avoir du multi-amorçage. Michel Mémeco.
Oui, dans le cas où une personne a installé, essaye d'installer Linux à côté de Windows, avec un système récent, donc EFI, on peut se retrouver dans un cas où Windows, par exemple, installe une mise à jour et il écrase l'ordre de démarrage ou la priorité de démarrage, ou même il empêche Ubuntu de redémarrer correctement. Donc c'est vrai que quand on fait un double boot, on peut avoir certaines surprises, et je pense qu'il faut voir le double boot comme une période de transition, comme un moyen effectivement de pousser Linux chez un consommateur lambda, chez un utilisateur débutant, de façon à ce que dans un deuxième temps si Windows n'est plus utilisé, bah, il sera moins nocif effectivement pour ces problèmes de démarrage. Donc attention effectivement à cette cohabitation. Il y a des solutions, etc. Mais on peut se retrouver un petit peu embêté. Ouais.
D'accord. Alors le temps file. On a parlé de matériel, on va dire de l'ancien temps. Enfin pas de l'ancien temps, encore aujourd'hui, hein, ordinateur de bureau, ordinateur mobile. Mais aujourd'hui, de plus en plus, l'informatique c'est sur un téléphone, hein, ce qu'on peut appeler aussi les ordiphones. Donc la question se pose aussi d'avoir des systèmes, des logiciels libres sur téléphone mobile. Donc dans l'émission qu'on avait consacrée aux libertés informatiques et la téléphonie, donc à laquelle avait participé Aurélien Couder, déjà, on avait parlé de F-Droid, qui est un magasin d'applications libres. Mais au-delà, au niveau système, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des téléphones avec des systèmes libres? Et si on achète un téléphone, comment se faire installer ou installer un système libre et avec quelles contraintes ou avec quels compromis? Aurélien Couder.
Donc on peut refaire peut-être le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux. Donc installer F-Droid et utiliser des applications libres, ça c'est faisable sur l'intégralité des appareils Android, il y a pas vraiment de contrainte pour ça, et donc on peut commencer à utiliser des logiciels libres sur son système existant Android en téléchargeant l'application F-Droid qui donne accès à ce magasin d'applications là. Ensuite, on a un certain nombre d'options de systèmes d'exploitation libres basés sur Android. La base d'Android même est du logiciel libre, mais aujourd'hui, il y a une partie importante du système qui est ce qu'on appelle Google Play Services. C'est tout ce qui gère Google Play, donc les applications Google, leur installation et toute une partie du cycle de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intrusif et qui n'est pas libre du tout. Donc quand on dit Android est libre, c'est vrai, mais pas pour toute cette partie-là. Et malheureusement, c'est une partie un peu au cœur de la plupart des appareils qu'on achète aujourd'hui. Donc dire qu'Android est libre dans les appareils qu'on achète sur le marché aujourd'hui, c'est concrètement pas vrai. Il ne fonctionne pas avec uniquement la partie libre. Et donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est remplacer ça par un système libre, donc qui repart de la partie libre d'Android. Et par exemple, il y a le système qui s'appelle Lineage OS, qui supporte quelques dizaines d'appareils qu'on peut installer en remplacement du système d'origine fourni par le constructeur et qui lui peut être intégralement libre. Donc là, comme on le disait pour les ordinateurs, ça demande d'avoir un petit peu de pratique. Si on l'a jamais fait, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué et c'est mieux de se faire assister par quelqu'un qui l'a déjà fait. Pour terminer, puisque tout à l'heure on parlait des micro-logiciels, aujourd'hui je connais pas de système qui fonctionne sans micro-logiciels propriétaires qui permettent de faire fonctionner un téléphone. Concrètement, on va descendre jusqu'au niveau du noyau Linux et de ce qu'on appelle habituellement l'OS, mais ensuite réussir à faire fonctionner toutes les puces de Wi-Fi, GPS, téléphonie et tout ça, ça aujourd'hui ça n'existe pas malheureusement sur le marché avec uniquement des micro-programmes libres.
Tout à fait. Michel Lemeto.
Oui, tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Aussi peut-être pour des problèmes de législation, de tout ce qui touche à la radio, aux émissions GSM, etc. Il y a toujours un firmware quelque part pour utiliser le matériel. Alors, donc je reviens sur ce qu'a dit Aurélien, super, hein, tu as très bien résumé effectivement la situation avec Lineage OS qui vraiment fait un boulot formidable. Et là, depuis l'an dernier, je pense qu'on a vraiment passé une étape pour amener cet Android libre vers le grand public, donc via le projet ILO lancé par Gaël Duval donc l'an dernier, qui là arrive vraiment à une maturité. Donc j'explique juste qu'est-ce que c'est qu'ILO. Donc ILO, c'est Lineage OS, ok. Et comme l'a dit Aurélien, aujourd'hui 90% des applications du Google Play Store sur Android ont besoin de certaines API, cette espèce de couche Google qui fait que Android aujourd'hui, qui est dans les mains des utilisateurs, n'est pas un Android propre. C'est un Android en fait complètement vérolé par cette couche Google rajoutée. Et notamment, pour expliquer un peu aux gens, cette couche Google rend Google administrateur du téléphone. C'est-à-dire que Google peut à distance faire des choses sans que les gens s'en rendent compte. Donc c'est vraiment important cette notion. C'est pas juste une brique logicielle qu'on peut désinstaller facilement. Non, c'est vraiment une brique qui est complètement inclue dans le téléphone. Donc je reviens à ILO, qui est donc l'addition de Lineage OS, de MicroG, donc qui est un logiciel libre qui remplace la couche Google avec du logiciel libre, et tout un tas de petits peaufinements des applications préinstallées pour que l'utilisateur lambda, effectivement, il prend ce téléphone, il a l'impression d'avoir un téléphone complètement fini, commercial, avec des services en ligne, etc. Et donc, on peut vraiment concurrencer les téléphones Android Google avec cette offre donc, de logiciels Zillow.
Et Michel, est-ce que toi, dans ton magasin, tu vends des téléphones mobiles ?
Alors, pas pour l'instant. Hein. C'est vrai que le marché de la téléphonie mobile, c'est un peu différent de l'informatique, notamment parce que ben, les prix sont beaucoup plus bas, les marges sont beaucoup plus faibles. Donc, il faut vraiment prévoir des gros volumes et avoir potentiellement beaucoup de services clients. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur la 1.0, donc sur le projet ILO. On pense que quand le projet aura atteint la 1.0, il sera assez mature potentiellement pour être préinstallé à grande échelle. ILO vend déjà des téléphones avec sa version bêta, des téléphones Galaxy Samsung notamment. Mais nous, on estime qu'on n'est pas encore effectivement au stade où on pourrait commercialiser des téléphones avec ce système, sachant qu'aujourd'hui, c'est le seul système qui pour nous est vraiment vendable au grand public.
D'accord. Alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, l'importance, on va rappeler des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui peuvent accompagner les gens à l'installation d'un système, hein, une solution, donc c'est d'acheter un téléphone d'occasion, et puis si le tuto pour installer Lineage OS ou Replicant, un autre système libre, est trop compliqué à suivre, ben, on va au premier samedi du libre, ou on va à Marseille, ou à la rencontre des, par exemple, du Cercle, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région, pour se faire aider, ou on demande directement à Aurélien Coudert, qui est plus gentiment peut vous aider. Voilà, c'est une remarque personnelle, parce qu'un jour Aurélien m'a installé un système, enfin aidé m'a installé un système. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais compléter, c'est que donc là c'est l'état des choses aujourd'hui, et il faut voir qu'il y a plusieurs projets différents qui essayent quand même de libérer les téléphones. Aujourd'hui, on est à un stade où effectivement, comme le disait Michel, on fait de plus en plus de choses sur son téléphone, et donc si on veut conserver cette liberté numérique, c'est quand même important d'aller de plus en plus vers de l'informatique libre aussi dans les téléphones. Et donc je voulais mentionner deux projets. Il y a un projet qui s'appelle PinePhone de la société Pine64 qui a pour but de créer donc un téléphone qui sera intégralement supporté par du logiciel libre. Ça ne sera pas avec Android, donc c'est vrai que d'un point de vue application, logiciel disponible et tout ça, ça va forcément démarrer plus doucement. Et il y a un autre projet qui est le LibreM5 de la société Purism, qui est un autre projet pour faire à nouveau avec un système différent un téléphone entièrement libre. Mais là où je rejoins Michel, c'est que ces deux produits-là sont à l'état aujourd'hui de prototype, et donc c'est pas quelque chose qu'on peut encore utiliser pour remplacer son téléphone principal.
Complètement. Alors, j'ajouterais juste, j'ai rencontré en fait le développeur qui travaille pour LibreM, pour le LibreM 5. Donc il a en fait réussi, et je trouve que le résultat est vraiment très convaincant, à convertir des applications GNOME, donc par exemple la calculatrice, enfin les applications standards de GNOME PC, à les convertir pour qu'elles s'adaptent correctement au format téléphone et que ça soit vraiment les mêmes applications avec les mêmes capacités. Le résultat est très intéressant. Maintenant, j'aurais du mal à proposer à ma mère ou à mon père d'utiliser effectivement cela. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde, malheureusement, maintenant, où même les banques demandent à ce qu'on utilise une application pour valider nos paiements, par exemple, sur Internet. On ne peut plus les valider par SMS. Il faut les valider avec des applications. Enfin, on va malheureusement rentrer de plus en plus dans cette obligation d'avoir un téléphone avec une Logitech compatible. Et c'est là où Android est, pour l'instant, la seule option.
On va juste préciser que GNOME, c'est un environnement de bureau libre, convivial, très utilisé dans le monde du logiciel libre. Alors, le temps file, je surveille. Je préviens les auditeurs et auditrices de la bande FM qu'on va dépasser 17h. Donc, à partir de 17h, on continuera sur le site internet pendant quelques minutes, donc sur causecommune.fm, pour permettre au dernier sujet de pouvoir avoir lieu. Donc dans les dernières questions, là on a parlé beaucoup du grand public, mais j'aimerais bien avoir un petit point, même si ça a été fait un peu en introduction, de la situation dans le domaine de l'achat par les entreprises et les collectivités. Est-ce que la situation est la même? Est-ce que les entreprises et collectivités peuvent avoir accès à des machines préinstallées ou des machines nues sur lesquelles elles vont ensuite installer du logiciel libre? Quelle est en gros, en quelques minutes, la situation des entreprises et collectivités? Aurélien Couder.
Alors, pour ce que je peux savoir de mon entreprise ou les différents retours que j'ai pu avoir de collectivités, à partir du moment où on achète du matériel en grande quantité, en fait, on a la capacité à négocier avec le fournisseur de matériel quel est le système qu'on veut ou qu'on ne veut pas qu'il soit fourni avec les ordinateurs qu'on achète. Donc, à mon sens, aujourd'hui, ça n'est pas compliqué pour... on va dire à partir, peut-être pas une PME, mais une moyenne entreprise, une grande entreprise et une administration qui voudrait acheter soit des ordinateurs nus, soit des ordinateurs fournis avec du logiciel libre. À mon sens, il n'y a pas de problématique aujourd'hui. De toute façon, les grandes structures, elles ont, que ce soit pour les systèmes libres ou non libres, elles ont des systèmes d'images qu'elles vont réinstaller avec leur personnalisation sur tous les ordinateurs qui vont rentrer dans leur périmètre. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a presque moins de problèmes que pour le grand public qui va acheter une seule machine et pour qui du coup c'est pas, du point de vue du fabricant, c'est pas intéressant de discuter de un avec un million de personnes qui vont chacune installer un seul ordinateur, acheter un seul ordinateur.
D'accord. Michel Lemeto, tu veux compléter?
Juste sur le marché entreprise que tu citais. Alors nous, on ne s'adresse pas à des très grandes entreprises, mais on a des PME de 50, 100 personnes qui vont venir vers nous parce que ils ont un public d'administrateurs système, de développeurs d'applications Android, par exemple, donc des secteurs d'activité où avoir un ordinateur Linux, c'est un gain de temps considérable pour travailler plus vite, tout simplement. C'est des gens qui mettraient beaucoup plus de temps à mettre en place leur environnement de développement, de travail, sur une machine Windows. Alors sur macOS, c'est un peu différent, mais bon, les machines Apple sont tellement loin en termes de prix et de personnalisation du reste que Linux a vraiment, sur PC, moyen de percer aussi sur cet aspect-là, cet aspect public développeur.
D'accord. Mais écoutez, avant-dernière question... Quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de 2 minutes, si c'est faisable? Qui veut commencer?
Moi, Aurélien. Je dirais, si vous êtes intéressé par un système libre, essayez. Donc, soit rencontrez les utilisateurs de logiciels libres près de chez vous, faites-vous une clé USB et essayez sur votre ordinateur. Vous pouvez lancer ces systèmes live sans les installer. Vous pouvez prendre une des grandes distributions type Ubuntu pour tester et faites-vous un avis.
D'accord. Michel Lemeto?
Moi, je crois que on est dans une époque où essayer et utiliser un système libre comme GNU Linux au quotidien, c'est devenu vraiment facile. On n'a plus les problèmes d'application comme il y a 10 ans où les applications n'étaient pas compatibles, etc. Aujourd'hui, un bon navigateur sous Linux fera mieux le travail qu'un système propriétaire.
D'accord. Et quand même un point important, parce que c'était un peu tout le thème de l'émission, pour y compris les passionnés ou les gens plus avancés qui se posent la question, c'est extrêmement important d'acheter un ordinateur avec du logiciel libre préinstallé, parce que c'est ça qui oriente aussi le marché, la manière dont les constructeurs voient ce type de client. Et donc c'est vrai que si on est soi-même utilisateur connaisseur et qu'on achète quand même un ordinateur avec Windows préinstallé, on ne travaille pas pour la cause de la généralisation du logiciel libre et on n'aide pas à ce que ce soit disponible pour le plus grand nombre.
D'accord. Dernière question, la question bonus. Quel conseil éventuel de lecture, une série ou de podcast aimeriez-vous conseiller aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est pas forcément en lien avec le logiciel libre ou un coup de cœur récent, Aurélien Couder.
Alors, donc ça sera un podcast et une chaîne YouTube. Moi, je recommanderais, alors c'est sur des sujets scientifiques tous les deux, je recommanderais La Méthode Scientifique, qui est l'émission de vulgarisation scientifique de France Culture, qui a des sujets sur tous les thèmes, tous les jours de la semaine, et qui est vraiment d'un très bon niveau et très abordable. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est ça s'appelle Zeste de Science. C'est une chaîne YouTube du CNRS qui présente des découvertes et des avancées scientifiques de manière très humoristique, mais quand même très exacte. Donc je recommande vivement.
Je connais les deux et je confirme. Michel, le même et toi, est-ce que toi tu as des conseils de ton côté?
Alors moi j'écoute beaucoup l'émission La Terre au carré sur France Inter à 13h30 tous les jours, donc c'est pas du tout dans le monde des logiciels, hein, c'est plus sur le changement climatique, etc. Mais je pense que c'est vraiment une émission qui permet de faire la part des choses justement sur ce genre de problème.
Bah écoutez, c'est super, on mettra les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm, parce qu'on a cité beaucoup de références. Donc nous avons parlé de la question de l'achat du matériel et du logiciel libre avec Aurélien Couder, donc bénévole à l'April, et Michel Memeto, directeur d'Ekimia.fr. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.
Parfait, merci à tous.
À bientôt.
Merci, au revoir.
À bientôt, merci à vous. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter La Vie sans toi par Kylie Moss. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, cause-commune.fm.
Le jour où t'es parti, j'ai bien cru que j'allais passer les 10 ou 15 prochaines années à chialer, perdre mon boulot et sombrer dans la misère, et finir en clodo à la soupe populaire. J'en suis le premier surpris, mais voilà, la vie sans toi c'est pas si dur que ça. Tu m'as laissé choir comme une vieille crasse. J'ai foncé chez un psy pour limiter la casse. À la fin de la séance, il m'a dit: cher monsieur, vous n'avez plus besoin de moi, vous allez déjà mieux. Je n'en reviens toujours pas de me voir émerger si vite de ce brouillard. Il m'a presque rongé, dans lequel tu m'avais si soigneusement plongé. Qui coule dans tes veines de cuir, tu n'avais pas ton pareil pour me faire me sentir plus minable qu'un verre, plus con qu'un plat de nouilles, et moi j'en redemandais comme un crétin sans. Aujourd'hui vive la liberté, les copains et le bonheur, la légèreté, le plaisir, le beau temps et les fleurs.
Nous venons d'écouter La vie sans toi par Kylie Moss, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France, en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors nous allons poursuivre avec, normalement, la chronique de Vincent Calame pour sa chronique Jouons Collectif. Tu as décidé de nous parler aujourd'hui de télétravail.
Oui, tout à fait. Parce que quand l'équipe de Libre à vous m'avait écrit jeudi dernier pour me demander le thème de ma chronique, j'étais un peu creusé la tête pour trouver un sujet, et puis faute de mieux, faut le dire, et penser à parler de la question de l'archivage des courriels. Et bon, bah, depuis, les événements se sont précipités, et puis nous voilà maintenant dans la situation de confinement que vivent nos amis italiens depuis quelque temps déjà. Et là, un des mots magiques apparu comme solution avec raison, c'est celui du télétravail. Donc, ça me semblait important de le mettre à l'honneur, et c'est donc lui que je voudrais parler dans ma chronique, parce que je crois que le monde associatif et militant est justement un de ceux les mieux préparés au télétravail, notamment grâce au logiciel libre.
Mais alors, en quoi ce monde associatif et militant est-il mieux préparé ?
Alors, tout simplement, c'est déjà pour beaucoup la réalité du travail au quotidien. Le monde associatif et militant est un des mondes qui doit gérer la plus grande diversité de parties prenantes. Là où une entreprise va être plutôt un monde clos, avec des relations somme toute très balisées avec l'extérieur, d'un côté les clients, de l'autre côté les fournisseurs et évidemment aussi l'administration, une association doit composer avec des bénévoles, avec des salariés, d'autres organisations partenaires, des collectivités publiques si les subventions sont en jeu, bref, des personnes et des structures diverses et variées qui ont des compétences et des exigences informatiques tout aussi diverses et variées et sur lesquelles l'association n'a pas prise. D'ailleurs, dans une précédente chronique, j'avais souligné que cette nécessité de communication tout azimut avec l'extérieur pouvait être un des freins à l'adoption de logiciels libres par une association parce que c'est une contrainte forte, mais je pense que dans la situation présente, ça devient une force. Et notamment parce que les associations sont très tôt saisies des outils de communication à distance, comme elles n'ont pas les moyens de s'offrir de belles salles de visioconférence, de payer tous les billets des participants, elles bricolent depuis longtemps avec les moyens du bord, avec des liaisons à des salles un peu pourries, comme c'est mon cas actuellement, avec des participants aux quatre coins de France et au-delà. Bref, elles sont prête au télétravail, même dans des conditions dégradées. Lundi matin, donc hier, je suis allé dans le bâtiment du 38 rue Saint-Sabin, où je travaille, au sein de la fondation Charles-Paul Meyer, et c'est un bâtiment qui héberge plusieurs autres structures, et j'étais agréablement surpris, tout avait déjà anticipé l'appel du télétravail, les bureaux étaient vides, et nous n'étions plus qu'une dernière poignée pour les derniers réglages, bon, comme vider le frigo, et puis donc tout était prêt. Mon passage du côté de la FPH, le seul point noir qu'on a eu, c'était un de nos logiciels propriétaires de comptabilité et de gestion de paye, mais là, on se trouve que nous avions déjà une solution tout aussi propriétaire pour le comptable, pour qu'il puisse y accéder de l'extérieur. Et je pense que cette situation n'est possible grâce à tous les services tournant sur des logiciels libres. Et bon, j'ai notamment contacté notre partenaire en Argentine qui héberge une partie de nos services. Il m'a déjà signalé une augmentation de la charge et qui va se pencher sur la question des visioconférences. C'est un service qui va devenir très important, comme d'ailleurs le témoin de l'organisation de cette émission Libre à vous.
Et d'ailleurs, nous-mêmes et d'autres structures membres des chatons, donc du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, hein, chaton avec un s.org, on a commencé à réfléchir aux outils à mettre en place pour permettre le travail collaboratif à distance, notamment ce qui est très demandé actuellement, l'audioconf et la vidéoconf, donc bientôt sur chaton.org avec un s et aussi sur chapril.org. Et donc le rôle des administrateurs système va être important dans les prochaines semaines, Vincent.
Oui, complètement. Hein. On va rendre notre confinement le plus confortable possible, dans la mesure du possible. Alors, j'aimerais terminer sur une note un peu positive, hein, même si c'est drôle pour personne. Mais là, pour tous les activistes que nous sommes, là, la France va tourner au ralenti, le travail législatif est suspendu, donc il y a moins de luges urgentes à organiser. Et je pense que c'est peut-être un peu le moment de faire du rangement et du classement, de se plonger dans ces archives. Bon, je pense que je reviendrai dans ma prochaine chronique sur le thème de l'archival des courriels, c'est promis. Ben, pourquoi pas relire son site, par exemple, son site web qui est souvent un peu fouillis, qu'on n'a jamais le temps de mettre à jour, parce qu'on a toujours d'autres choses à faire. Bref, de faire un petit travail d'introspection et de mémoire, voilà, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et puis aussi, je pense, lutter à notre manière contre cette accélération du monde qui est, faut le dire, une des raisons de cette crise présente.
Oui, tout à fait. Puis on va préciser peut-être que ce télétravail actuel a, à mon sens, deux spécificités quand même par rapport au télétravail habituel. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est du télétravail avec des enfants à la maison, ce qui change quand même radicalement les choses. Et deuxième chose, c'est du télétravail en période de crise. Et donc, effectivement, forcément, probablement avec un impact sur le moral.
Oui, il y aura un impact sur le moral. Alors, pour les enfants, peut-être par l'occasion pour eux de comprendre enfin ce que vous faites, que chacun fait, mais bon, je n'en ai pas, donc je ne connais pas la situation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, la crise va jouer sur le moral, mais on va justement avoir besoin de beaucoup de liens sociaux à distance par Internet. Et là, je pense que l'engagement associatif va être quelque chose de précieux pour chacun. On va, je pense, en juger encore plus, apprécier cette valeur des liens sociaux qu'on a pu tisser dans l'engagement associatif pour garder le contact et garder le moral. Et donner l'envie, une fois le confinement terminé, de continuer de reprendre les combats que nous menons.
Oui, espérons que les outils informatiques, effectivement, permettent de passer au mieux cette période d'un point de vue humain. Bah, écoute, Vincent, je te remercie pour ta chronique. Donc, c'était Vincent Calam, la chronique Jouons Collectif, qui portait aujourd'hui donc sur la question du télétravail. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.
À bientôt.
Alors, bah, nous approchons de la fin de l'émission. Et cette émission se termine. Donc, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Aurélien Couder, Michel Memetto, Vincent Calam, Sylvain Kutzmann, qui travaillent également à la production, post-production des podcasts de Libre à vous. Un grand merci à William Asgavari, à la régie aujourd'hui, qui nous permet la diffusion. Merci également à Olivier Grieco, en toute urgence, de nous avoir mis à disposition un Nextcloud de discussion qui nous a permis d'échanger en direct. Merci également à Christian Momon, bénévole à l'April, qui va découper le podcast complet en podcast par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm, toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à la faire connaître, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire également connaître le radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 24 mars 2020 dans les mêmes conditions, donc avec peut-être des améliorations. Notre sujet principal portera sur l'agilité, qui est un groupe de pratiques basé sur l'auto-organisation d'une équipe. L'ajustement permanent et manuel pour viser à la fois la satisfaction des équipes et puis des structures clientes. Et comme dirait l'intervenant qui interviendra la semaine prochaine, c'est l'important, c'est le fun. Et ce thème est assez en adéquation avec la situation actuelle en France. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 mars. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et des autres.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.